www.mindfulbusinesscoach.com.
Bonjour et bienvenue sur N.com, le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le 6e de la saison 2 et c'est un plaisir de vous retrouver. Je me nomme René Nkowa et aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement de l'innovation avec Mathieu Desfontaines. Mathieu Desfontaines a déjà derrière lui une expérience de 20 années dans la gestion de projets numériques quand il pose à nouveau ses valises au Cameroun il y a 2 ans. Ce diplômé en administration des entreprises a déjà fait valoir ses compétences en informatique, en gestion des organisations et dans l'appui de la bonne gouvernance en Allemagne, en France, au Niger, au Bénin et déjà 2 fois au Cameroun. Aujourd'hui, il travaille comme ambassadeur digital de la GIZ, qui est l'agence de la coopération internationale allemande pour le développement. Il est affecté auprès d'Active Species, dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, et qui est un hub d'innovation qui accueille les communautés tech au Cameroun. En première partie de cet épisode de N.com, nous tenterons de comprendre le rôle et les missions d'un ambassadeur digital. Et dans la seconde partie, nous parlerons avec notre invité du fonctionnement des makerspaces, des bénéfices de la gamification et de son travail dans les communes camerounaises. Bonjour Mathieu Desfontaines, je suis très heureux de te recevoir sur ce nouvel épisode de podcast N.com. J'ai une question qui m'a un peu taraudé l'esprit quand je préparais ce podcast. En fait, tu as deux noms, tu as ton nom au civil qui est Mathieu Desfontaines et sur les réseaux sociaux, tu es connu comme Mathieu Diga. Qu'est-ce qui justifie cela?
Alors effectivement, j'ai trouvé plus simple de devenir un peu schizophrène, de mettre... la vie personnelle d'un côté, donc c'est Mathieu Desfontaines, et ma vie d'ambassadeur digital, Mathieu Diga, donc Digital Ambassador, pour parler un peu de tout ce que je fais au niveau de la promotion de l'innovation ici au Cameroun. Et comme j'utilise souvent mes comptes Facebook, Twitter, pour promouvoir des technologies ou à titre d'exemple lors de formations, en marketing digital, etc., j'ai besoin d'un compte un peu plus bac à sable où je ne vais pas forcément parler des sujets auxquels je pourrais, avec lesquels je pourrais m'entretenir avec mes cousins, cousines qui sont restés en France.
Comme on l'a dit en introduction et comme tu viens de le dire, tu es ambassadeur digital. Tu es missionné par la GIZ depuis 2 ans auprès de Active Species, qui est un hub, un tech hub installé au Cameroun. Je précise que la GIZ, dis-moi si je me trompe, elle est l'agence technique de la coopération allemande.
Je travaille depuis 10 ans déjà pour la coopération technique allemande. Donc c'est la GIZ, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Et effectivement, c'est elle qui implémente la plupart des projets initiés dans le cadre des négociations bilatérales entre la République fédérale d'Allemagne et la République camerounaise.
Et on remarque que la GIZ intervient beaucoup dans les projets d'innovation au Cameroun. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est une politique décidée par l'État allemand ou c'est juste un intérêt, on va dire, plutôt commun pour ce qui se fait un peu partout dans le monde et particulièrement au Cameroun?
Elle pourrait encore faire davantage, mais il est vrai que de plus en plus, le digital est un volet d'exploration dans de nombreux projets de la coopération allemande. Il n'y a pas encore ici au Cameroun un projet propre dédié au digital comme on peut en avoir au Rwanda, en Tunisie, où c'est vraiment un secteur prioritaire d'intervention. Mais maintenant, on est presque obligé de penser, dès la conception d'un projet, à un volet digital. Donc progressivement, des personnes comme moi vont être de plus en plus nombreuses, j'espère, au sein de cette structure, même si pour l'instant on est quand même très minoritaire.
Revenons sur ce titre, ambassadeur digital. En quoi ça consiste, dans les faits, cette mission?
Alors là, c'est vrai que c'est une question piège, mais j'aime ce titre, parce que quelque part, ça donne l'idée qu'on est là pour être l'ambassadeur, pour promouvoir des nouvelles technologies, pour peut-être faire dialoguer justement ce qui peut se faire déjà au nord, ici dans les pays du sud. Mais si je regarde, parce que j'ai eu deux vies d'ambassadeur digital, ici à ActiSpace, où j'ai surtout travaillé sur des thématiques telles que les podcasts, le makerspace ou le marketing digital. Mais 2 ans avant, j'étais au Bénin, où là, j'avais mis l'accent sur la gamification, donc un autre volet des nouvelles technologies. Et si je regarde mes autres collègues ambassadeurs digitaux, ils travaillent sur des technologies très différentes. Certains sont sur la géomatique, sur l'espace, les drones, etc. D'autres sont dans les bases de données. Donc ça peut être très large, très divers. Mais c'est quelqu'un qui comprend un peu les mutations du temps et qui saisit les opportunités du numérique pour développer de nouvelles applications.
Et au quotidien, comment cela se traduit dans ton activité? Je veux dire, quelle est la journée typique d'un ambassadeur digital?
Là aussi, une question difficile parce qu'il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, mais c'est pour ça que j'aime ce métier. Et c'est pour ça que ça me plaît d'autant plus. Donc j'ai cité tout à l'heure 3 grands piliers actuellement de mon intervention ici au Cameroun, que sont le podcast, le marketing digital et les makerspaces. En tout cas, moi j'aime le plus possible être sur le terrain, proche des communautés, proche des communes, et essayer d'y promouvoir. Des fois des choses toutes simples, toutes basiques, mais malheureusement, parfois il faut faire beaucoup d'administratifs, beaucoup de procédures pour pouvoir effectivement avoir cette chance de descendre sur le terrain et d'y présenter nos résultats et nos travaux.
En préparant cette interview, je me suis rendu compte que tu as quand même une expérience de près de 2 décennies en Afrique. Et j'aimerais savoir, au vu de tout ça, quels sont, de ton point de vue, les atouts dont bénéficient les pays africains dans la marche vers l'innovation?
Alors je trouve que déjà naturellement, il y a un sens de la débrouille qui est beaucoup plus développé qu'en Europe. Donc à partir de pas grand-chose, on va essayer de se battre pour essayer de répondre et de trouver une solution à un problème. Et donc là, pour le développement des low-tech, c'est particulièrement intéressant.
Pardon, c'est quoi le low-tech?
Low-tech, c'est les technologies à basse consommation, enfin plus faciles à appréhender, à mettre en œuvre. Je me souviens, et c'est pour ça que j'avais fui l'Europe, quand j'étais dans les tours de la Défense, quand on débarquait à 300 consultants sur un projet de migration SAP dans des grandes entreprises comme EDF, Électricité de France, pour basculer leur système informatique, c'était. Enfin, moi, j'étais très mal à l'aise parce que le travail était très morcelé. On avait un tout petit bout de la chaîne. On rédigeait un aspect, un tout petit module d'une spec. Et il y en avait un autre qui était là pour nous contrôler, un en amont, un en aval. Bref, on n'avait pas du tout un regard complet de A à Z. Alors qu'ici, et c'est ça qui me plaît, non seulement on n'est pas hyper spécialisé, mais on peut véritablement être très généraliste, développer plein de technologies à la fois, très simplement, mais on va pouvoir le mener de A à Z en entier. Et personnellement, c'est ça qui me plaît. Et après, si je regarde une innovation telle que le mobile money, en Europe, on n'a pas ça. Et c'est révolutionnaire, c'est vraiment formidable. Quand j'explique à mes collègues venus d'Europe que leur banque, maintenant, ça sera la maman là qui est sous le parasol, ils me regardent bizarrement, ils ne comprennent pas. Et après, quand ils découvrent le mobile money, ils sont tellement conquis, tellement fascinés.
J'ai le sentiment que le mobile money, ou alors ce qui s'apparente à du mobile money, est en train de s'installer en Europe via des opérateurs comme Orange.
Lentement, mais le lobby des banques qui ont fidélisé pendant des siècles et des décennies beaucoup plus de clients freine un peu peut-être l'éclosion de cette technologie. Alors qu'ici, elle est née du fait qu'on avait ce défaut de bancarisation des populations africaines qui n'avaient pas de possibilité de sécuriser leur argent. Là en plus, avec le problème de pénurie des pièces, ça devient grave pour rendre l'argent, etc. Le mobile money a toutes les raisons de se déployer encore plus vite que dans des pays où les Mastercard, les Visa ont commencé déjà un lobbying tellement fort. C'est vrai que ça va peut-être revenir en boomerang en Europe, mais les banques sont méfiantes et à mon avis freinent ça.
Est-ce que tu as le sentiment que les acteurs institutionnels, industriels, ceux de l'éducation ou les acteurs financiers ont vraiment saisi les enjeux de cette innovation?
En tout cas, ils ne la soutiennent pas suffisamment et c'est vraiment dommage que des pépites et que l'esprit créatif qu'on trouve ici dans ce monde de débrouille ne soit pas plus encouragé que ça. Ici, on est tellement plus exigeant vis-à-vis d'un start-upper, on va commencer à le regarder que quand il génère réellement des bénéfices. Et ça, c'est vraiment problématique pour trouver des financements et pour l'aider à se développer. Si jamais il a le malheur de se déclarer trop tôt, de déposer ses papiers en préfecture, etc., avant d'avoir généré des bénéfices, il va avoir tellement de choses à payer que il aura vraiment beaucoup de mal à faire éclore son business. Et j'appréciais ce que disaient Rebecca et Nanchon, de dire que être entrepreneur, c'est de la folie, mais en Afrique, ça l'est encore beaucoup plus. Et franchement, ceux qui réussissent, chapeau bas.
Ce podcast vous est proposé par www.koa.com.
On est de retour avec Mathieu Diga et on va cette fois-ci, dans cette deuxième partie de ce podcast, parler de d'autres sujets que sont le Makerspace, le podcast et on va dire l'activité de Mathieu auprès des communes camerounaises. Donc commençons avec le Makerspace. Tu as un peu défriché le champ du makerspace dans la première partie, mais j'aimerais savoir, c'est quoi un makerspace?
Dans makerspace, il y a deux mots. Il y a space, un espace, et maker, c'est ceux qui font, qui fabriquent, donc un espace de fabrication. On peut appeler ça également Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication, ou le mot français, ça serait tiers-lieu, même si je trouve que c'est un peu compliqué. Mais c'est un lieu alternatif où, au lieu de succomber à l'économie de marché, à la consommation à grande échelle, on va fabriquer soi-même ce dont on a besoin avec les matériaux locaux. Et donc, les makerspaces, les tiers-lieux, c'est des espaces où on va fabriquer, on va mettre en commun le savoir. Donc, normalement, il y a vraiment une mutualisation aussi, il y a un aspect très, très communautaire. On a vu d'ailleurs comment ils se sont mobilisés à une vitesse grand V au début de la pandémie du Covid-19, en distribuant les modèles pour fabriquer des visières, des masques, les sas de désinfection Covid, etc. Donc il y a eu beaucoup de créativité parce qu'on était face à un phénomène nouveau, inexploré. On a eu cette ingéniosité, on a mélangé des aspects hardware en bois, en plexiglas, avec un peu d'acier et autres. On a mis de l'électronique là-dedans, on a mis des capteurs. Donc tout ça, c'est ça qu'on veut créer au sein d'un makerspace. Donc au niveau de la coopération technique allemande, on en a équipé 3. Donc j'ai cité tout à l'heure ActiSpace ici à Douala, Garoua 2e au centre de formation professionnelle de l'Opéré. Et plus récemment, là c'était en début d'année, en février dernier, à l'occasion de la fête de la jeunesse, on en a ouvert un à Barébakem, au nord de Consamba.
Et une autre question, tu as parlé tout à l'heure, dans la première partie, de la gamification. Et c'est une question que je trouve intéressante parce que, ça c'est pour les auditeurs, lors d'un séminaire récent, tu as organisé un petit exercice qui passait par le jeu vidéo ou les systèmes ludiques pour l'apprentissage. J'aimerais savoir c'est quoi la gamification et qu'est-ce que ça apporte de manière singulière dans le domaine de l'innovation, dans la transmission des connaissances.
En fait, la gamification, c'est quoi? C'est transposer les techniques du jeu à un domaine a priori non ludique. Donc, on est au centre de formation des métiers de l'eau, par exemple. On doit former des hydromécaniciens, des agents de maîtrise de l'eau, sur le cycle de l'eau, sur tout un tas de choses. A priori, pourquoi un ambassadeur digital auprès d'une telle institution? Eh bien, on en a profité justement pour rendre ludique tout ça, créer des jeux de placement sur image, d'ordonnancement, des quiz. Et le quiz, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, il y a toute une technicité pour poser des questions. Ça paraît simple comme ça quand on le dit, mais en fait, c'est tout un art. Si on veut que les propositions soient un peu attrayantes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les distracteurs, mais il faut qu'elles soient quand même plausibles. Et bref, il y a toute cette technicité, le fait d'avoir l'engouement de gagner des points, d'avoir un système de ranking et autres, d'être valorisé au sein du groupe, de gagner éventuellement quelque chose à la fin, ça rend l'engagement de l'auditeur, enfin de celui qui participe, beaucoup plus grand. Et bon, il ne faut pas tout gamifier, mais de temps en temps, ça réveille l'audience, surtout quand on intervient et l'atelier auquel tu fais référence. On m'avait demandé d'intervenir en fin de journée, juste après le repas. Là, si on n'a pas une technique qui réveille la salle, on est fichu.
Quelles peuvent être les applications de la gamification, on va dire, dans la vie d'une entreprise, prenons le cas des entreprises? Quels sont les bénéfices que ce type d'organisation peut tirer de la gamification?
Ça peut permettre de transmettre un savoir, des compétences, et en plus d'évaluer si l'apprenant les a retenus ou non. Par exemple, on a fait des formations au sein du centre de formation à l'administration locale sur les techniques de mobilisation des ressources ou encore sur l'entretien des routes. Il y avait des photos, par exemple, ils devaient décrire quelles étaient la nature des problèmes sur la voie publique, si c'est le nid de poule, le bourrelet, enfin bref, ça leur permettait d'avoir un vocabulaire et une technicité et de mieux comprendre après les enjeux. Et je pense que ça, c'est bien. Et ici, plus récemment, donc quand je suis revenu encore fraîchement du Bénin, j'ai eu l'occasion de faire un gamificaton, c'est le nom que j'ai donné à mon concept. C'était un hackathon autour du jeu à la demande du programme PAMEC, le programme d'appui à la modernisation de l'état civil, un autre programme de la coopération allemande. Donc a priori l'état civil ça n'a rien de sexy, etc. On sait les ravages de tous ces enfants fantômes qui arrivés au CEP découvrent en fait qu'ils ne peuvent pas composer parce que les parents ne les ont pas déclarés, etc. Comment sensibiliser par rapport à tout ça? On a créé un concours, on a eu plein d'idées et à l'issue de ça, il y a même une équipe qui a finalisé un jeu auprès du cabinet Kiro Games à Yaoundé en stage. Et donc, désormais, dans le Play Store, on a Keshia Citoyenne qu'on peut télécharger et on va pouvoir voir cette jeune mère d'enfant qui va devoir faire des choix qui vont influer ou non après sur le succès de l'enfant qu'elle a vu naître.
Keshia Citoyenne qui est une application, on va dire, camerounaise.
Oui, c'est du Made in Cameroun 100% qu'on a pu faire ici et franchement, c'est une belle réussite à mon avis.
Maintenant, on va passer à une autre question qui est celle des podcasts, parce que tu es podcasteur. Et à l'écoute de tes épisodes, je me suis rendu compte que dans ton podcast, tu fais beaucoup la promotion de ton travail avec les communes camerounaises, parce que tu n'es pas seulement à Douala, mais tu suis d'autres projets qui se passent, on va dire, dans les régions du Cameroun. Alors, pourquoi est-ce que tu fais le lien entre ton travail dans les régions, dans les communes camerounaises et le podcast? Et à quoi te sert le podcast dans cette partie de ton travail-là?
Disons que je ne suis pas podcasteur professionnel, mais plutôt podcasteur expérimental. Mais j'essaye justement d'entraîner les communes que j'accompagne dans tout ça. Et quoi de mieux que de prôner par l'exemple? Donc j'ai moi-même commencé à développer mes propres podcasts pour montrer comment ça peut être utile pour mes communes partenaires de promouvoir tel ou tel sujet. Donc, on a eu l'occasion de faire un challenge avec les chargés de communication. Je leur avais donné tout le planning des journées mondiales de ceci, cela, là, entre avril et mai. Et ça a été autant de sujets sur lesquels elles ont, elles aussi, pu podcaster. Elles ont, elles aussi, fait des publications sur les réseaux sociaux, sur Facebook. D'autres ont ouvert des comptes Twitter. Et ainsi, au littoral et au nord, qui sont les deux régions dans lesquelles j'interviens le plus, on a créé cette émulsion et on a permis à toutes ces communes de se prendre en main, de développer aussi leur propre contenu et de ne pas laisser en fait, les fake news l'emporter, mais qu'on ait réellement un contenu éditorial, local et pertinent dans les régions d'intervention.
Et ton travail dans les régions, dans les communes, en quoi il consiste?
Alors, la théorie de la création de mon poste, au départ, c'est de ramener l'innovation urbaine de Douala à travers ActiSpace dans des territoires plus reculés de l'arrière-pays à travers une structure qui avait un peu délaissé et abandonné le Minpostel qu'on appelle les télécentres communautaires polyvalents, en abrégé TCP. Après, c'est pas si simple de revitaliser ces espaces qui se voulaient être des cybercafés de campagne, là où aucun opérateur économique ne serait risqué à aller parce que économiquement, c'est pas rentable. Là, avec l'avènement en plus des smartphones, l'autonomie des personnes par rapport aux nouvelles technologies, ça devient d'autant plus complexe de redynamiser ces espaces. Même comme on a développé des modèles assez innovants au nord, notamment à Mandama et à Bibemi, où là on a des réseaux maillés, des réseaux Wi-Fi en fait qui diffusent le signal au-delà des murs de cet espace physique qui est le télécentre communautaire, que ce soit dans la commune, l'hôpital de district, la maison de la femme, la maison des jeunes et autres, et avec une plateforme de services et des échanges, une sorte d'intranet communautaire. Bon, après, il faudrait des centaines et des milliers d'heures pour changer les comportements et montrer tout le potentiel de cette technologie aux populations locales. Ici, au littoral, on n'a pas encore réussi à concrétiser ça à cause de différentes lourdeurs administratives. Donc, j'essaye justement, simplement avec mon téléphone, mon smartphone, de montrer que on peut déjà publier du contenu, qu'on peut créer des podcasts, qu'on peut vendre en ligne.
Au terme de cet entretien avec Mathieu Desfontaines, ce que nous pouvons retenir est que l'innovation est résolument en marche au Cameroun, mais que les efforts fournis doivent s'adapter aux différences des besoins qu'il existe entre les deux grands centres urbains que sont Douala et Yaoundé et les autres localités du pays. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a désormais une page dédiée sur LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner et y poursuivre cette conversation. Le podcast est disponible sur les plateformes Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et Colorful. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel entretien avec une actrice ou un acteur des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À bientôt !